Bonjour Laurent, merci pour le passage d'antenne avec les enfants, puisque c'est maintenant l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry. Et aujourd'hui, on réécoute un parcours de promenade radiophonique, parce que toutes les classes n'ont pas pu évidemment venir à l'exposition sur les 40 ans, et donc est disponible en ligne et à l'écoute maintenant sur Radio Libertaire. Le parcours destiné aux enfants de 6 à 9 ans. Il s'agit de 5 petites capsules sonores sur l'imaginaire. Et donc, on va à la rencontre des structures culturelles d'Ivry en particulier. Donc le théâtre, la médiathèque, le Crédac, le Luxi. Et on va à la rencontre, évidemment, de l'imaginaire des enfants eux-mêmes. Pour les classes qui veulent jouer, il y a sur le site internet le livret avec les questions qui sont à poser aux enfants après chaque écoute. Et donc, je vous souhaite bonne chance, les enfants.
La radio des écoles.
Bonjour, nous sommes en 2022.
C'est l'histoire d'un adulte qui retrouve son don d'enfance lors d'une balade au zoo. Communiquer avec les animaux.
L'artiste Elios Génico, comédien.
Il mimait les animaux.
Si tu savais, moi j'ai pas le temps de tout raconter. J'ai beaucoup de travail, moi. J'ai tout porté.
Moi, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est le jaguar. Vu que moi, je trouvais ça gênant qu'il se met à quatre pattes devant beaucoup de spectateurs. Comme ça, en faisant comme ça, moi, je trouve que c'est pas très normal. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est un peu gênant. L'acteur, c'était bizarre ce qu'il faisait.
Il léchait sa main.
Il léchait sa main, mais pas vraiment. Il léchait pas vraiment sa main. Il faisait semblant. Moi, je pourrais jamais faire ça sur un plateau comme ça si j'étais à sa place.
Je pense que la première fois qu'il a fait un spectacle, et même les premiers spectacles, le début de sa carrière, il a déjà été gêné. Mais comme là, il a eu plein de spectacles, je pense qu'il fait aussi d'autres spectacles humoristiques avec des gestes ridicules. Du coup, il s'est habitué à être devant beaucoup de gens. C'est des gens, les comédiens, ils peuvent parler devant beaucoup de monde et être timide, c'est pas très bien quand t'es comédien.
En 2024, Radio Cartable fête ses 40 ans. Bonjour, nous sommes en 2022.
Vous faites des œuvres sous forme de diagrammes, avec des textes et des dessins. On a appris que vous avez découvert cette technique à l'école.
Dans vos dessins, si vous mélangez depuis toujours les mots et les dessins, est-ce que c'est pour partager votre imagination ?
Alors oui, effectivement, c'est pour imaginer des histoires et pour les partager avec d'autres personnes. Et comme vous disiez, le tout début de mon travail, c'était à l'école que j'avais fait. Parce que quand j'avais 15 ans, j'avais lu un livre qui conseillait de prendre des notes en mêlant des dessins et des formes géométriques. Donc j'ai commencé quand j'étais dans les cours et que les profs parlaient pour nous expliquer des choses, à faire des petits dessins, à mettre des flèches, des carrés, des rectangles, des choses comme ça, pour avoir quelque chose qui était à mi-chemin entre l'écriture et le dessin.
Dans votre exposition, il y a cette question. Si le ciel était comestible, quel goût aurait-il ? Vous partez de la couleur du ciel pour l'associer à un goût, mais on peut trouver votre question absurde. Car si on mange le ciel, il va disparaître.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce diagramme ?
Alors, la chose qui m'a inspiré pour ce diagramme, c'est que quand j'ai visité le Crédac, on m'a dit qu'il y avait une personne de l'équipe, Lucia, qui est là, qui avait une passion, qui était de prendre en photo des couchers de soleil qu'on voyait à travers les grandes baies vitrées du Crédac, sur les expositions. Et je me suis dit que le ciel était important dans ce bâtiment où il est très visible avec les vitres, et que ce serait intéressant de faire une œuvre en rapport avec ça.
Après votre exposition, on s'est posé beaucoup de questions. En voici quelques-unes. Pourquoi a-t-on créé la télévision ? Pourquoi les riches ne partagent pas leur argent avec les pauvres ? Que se passerait-il si tout était gratuit ?
En 2024, Radio Cartable fête ses 40 ans.
C'est du sang qui se parfume.
C'est quoi l'émotion ?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment ?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie ?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance ?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps ?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme ?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance ?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir ?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel ?
Un monument aux vivants.
C'est quoi grandir ?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance ?
De la tendresse en pyjama.
Mamie, papa, la vie, c'est quoi ?
Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi. C'est toi.
C'est quoi le remords ?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine ?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel ?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir ?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire ?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie ?
Une épuisette à étoiles.
C'est quoi l'indifférence ?
C'est la vie sans les couleurs.
Et c'est quoi le racisme ?
Une infirmité du cœur.
C'est quoi l'amitié ?
C'est une île au trésor.
Et l'école buissonnière ?
N'accroche pas ta Pythagore.
C'est quoi la sagesse ?
C'est Tintin au Tibet.
Et c'est quoi le bonheur ?
C'est maintenant ou jamais. Tout ça, mais surtout, c'est toi. C'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. La vie est là.
Bonjour, nous sommes en 2021.
Nous sommes allés au cinéma. Regardez Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud.
Hey Lilia, tu connais le film Le Roi et l'Oiseau ?
Non, et toi ?
Bah si, il y a de l'émotion dans ce film.
Ça parle d'un roi méchant qui veut épouser la bergère.
La bergère avec le ramoneur aussi voulait se marier. Ils vont se sauver tout l'été pour échapper au roi. Et il y a un oiseau qui a été.
Dans notre film, nous avons eu peur. Nous avons été tristes, contents, surpris.
Nous allons vous raconter de petits passages. À vous de deviner si on était triste ou joyeux ou peureux. Ou s'il y avait de la douleur.
Le robot du roi est très méchant et super grand. Et il a écrasé une maison. J'avais très... peur.
Quand le robot du roi a lancé le roi dans l'espace, il a dû se serrer très... mal.
J'ai aimé quand le roi, il est tombé sur la tête. J'étais très... joyeuse.
Quand la bergère et le ramoneur se sont séparés.
J'ai pleuré. Quand la bergère et le ramoneur sont sortis de leur peinture, j'étais très surpris.
En 2024, Radio Cartable fête ses 40 ans.
Bonjour, nous sommes en 1994.
Bonjour, nous sommes les CE1B de l'école Franc-Nord-1, Paris 13e. Nous vous proposons une émission de radio cartable enregistrée dans le futur en an 2004. Aujourd'hui, en an 2004, nous guérissons le sida grâce à un médicament qui s'appelle un antivirus. Des chercheurs ont découvert l'antivirus en an 2002, il y a 2 ans.
Aujourd'hui, en 2004, les avions n'existent plus. Les voitures et les bus n'existent plus. Les autres moyens de transport sont les rollers.
En 2024, Radio Cartable fête ses 40 ans. Nous sommes en 2016.
Nous allons vous présenter le portrait chinois du romancier réalisateur Atik Raimi.
Vous venez de quel pays ?
Je viens d'un pays qui s'appelle Afghanistan.
Vous écrivez quoi comme type de livre ?
Des romans. Des romans, j'écris des romans sur... sur la bêtise humaine, sur la folie des hommes qui déclenchent des guerres. Voilà. Et puis je parle de ceux qui ensuite souffrent de cette guerre.
Nous allons vous poser des questions pour faire votre portrait chinois.
D'accord.
Si vous étiez un animal, vous seriez...
Un animal... Atik. Oui, moi je suis un animal, moi.
Non.
Si vous étiez un monument, vous serez.
Un monument. Je serais. Oh là, il y a plusieurs choses que j'aimerais bien être. La statue de Bouddha.
Si vous étiez une matière, vous seriez.
De l'eau.
Si vous étiez une ville, vous seriez
Paris.
Si vous étiez une boisson, vous seriez.
Qu'est-ce qu'il faut dire ? Voilà. Jus de grenade.
Pourquoi et quand avez-vous dit « Je suis bouddhiste parce que j'ai conscience de ma faiblesse. Je suis chrétien parce que j'avoue ma faiblesse. Je suis juif parce que je me moque de ma faiblesse. Je suis musulman parce que je condamne ma faiblesse. Je suis athée si Dieu est tout puissant. »
J'ai dit une bêtise ? Non, d'accord.
En 2024, Radio Carta fête ses 40 ans.
Interview de Juliette Green par la classe de CE2 de l'école Maurice Thorez B. Juliette Green a réalisé sa première exposition personnelle au Crédac intitulée « Le goût des mots ».
Bonjour, nous allons vous poser des questions. Pourquoi faites-vous de l'art ? Dessinez-vous parce que vos proches le faisaient ?
Alors moi je fais de l'art parce que j'aime bien écrire et dessiner. Et quand j'étais petite, j'avais des proches autour de moi qui aimaient bien écrire, dessiner aussi, faire de la peinture. Mais personne avait ça comme métier, donc je pensais pas que artiste c'était une vraie profession. Et après, je suis rentrée dans une école d'art et on m'a dit que si, c'était un vrai métier. Donc voilà pourquoi maintenant, c'est le mien.
Vous faites des œuvres sous forme de diagrammes, avec des textes et des dessins. On a appris que vous avez découvert cette technique à l'école.
Dans vos dessins, si vous mélangez depuis toujours les mots et les dessins, est-ce que c'est pour partager votre imagination ?
Alors oui, effectivement, c'est pour imaginer des histoires et pour les partager avec d'autres personnes. Et comme vous disiez, le tout début de mon travail, c'était à l'école que j'avais fait. Parce que quand j'avais 15 ans, j'avais lu un livre qui conseillait de prendre des notes en mêlant des dessins et des formes géométriques. Donc j'ai commencé quand j'étais dans les cours et que les profs parlaient pour nous expliquer des choses, à faire des petits dessins, à mettre des flèches, des carrés, des rectangles, des choses comme ça, pour avoir quelque chose qui était à mi-chemin entre l'écriture et le dessin.
Pourquoi continuez-vous à faire des diagrammes adultes ?
Parce que dans la vie, c'est important de s'amuser. Et aussi parce que maintenant, comme je fais des expositions, j'ai la chance de pouvoir travailler sur d'autres supports que le papier. Donc sur des toiles, sur des panneaux de bois, sur les vitres aussi, comme vous avez fait quand vous êtes allé au Crédac. Et ça, c'est un grand plaisir de pouvoir dessiner sur des surfaces qui sont interdites quand on est plus jeune.
Dans votre exposition, il y a cette question. Si le ciel était comestible, quel goût aurait-il ? Vous partez de la couleur du ciel pour l'associer à un goût, mais on peut trouver votre question absurde. Car si on mange le ciel, il va disparaître.
Aimez-vous les questions absurdes ?
Alors oui, j'aime beaucoup les questions absurdes parce que une des choses que j'aime le plus dans les expositions, c'est quand ça fait rire les gens. Et cette question sur le ciel, elle vient d'un livre que j'avais lu quand j'étais petite, Charlie et la chocolaterie, où à un moment, les personnages arrivent dans une grande pièce où tout est comestible. Donc ils commencent à manger des objets, des choses comme ça. Et du coup, c'est de là qu'est partie cette œuvre-là.
Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce diagramme ?
Alors, la chose qui m'a inspiré pour ce diagramme, c'est que quand j'ai visité le Crédac, on m'a dit qu'il y avait une personne de l'équipe, Lucia, qui est là, qui avait une passion, qui était de prendre en photo des couchers de soleil qu'on voyait à travers les grandes baies vitrées du Crédac, sur les expositions. Et je me suis dit que le ciel était important dans ce bâtiment où il est très visible avec les vitres et que ce serait intéressant de faire une œuvre en rapport avec ça.
Vous avez fait un diagramme sur la nourriture qui répond à cette question. Que se passerait-il si on n'avait plus besoin de manger ? Vous avez répondu par des avantages et des inconvénients.
Dans ce diagramme sur la nourriture, vous avez tout écrit en une seule couleur, le rouge. Pourquoi avez-vous utilisé une seule couleur ? Est-ce que c'est parce que c'est votre couleur préférée ? Parce que ça fait joli ? Ou alors la couleur est-elle liée à la question posée ?
Alors effectivement, j'aime beaucoup la couleur rouge. Mais la raison pour laquelle il y a autant de rouge dans cette exposition, c'est que il y a beaucoup d'œuvres qui sont sur les supermarchés. Et les logos des supermarchés sont très souvent rouges. Si vous pensez aux logos de Carrefour, Intermarché, des choses comme ça, il y a toujours du rouge dedans. Et du coup, je me suis dit, puisque c'est une exposition sur la nourriture, autant faire ce petit rappel au supermarché.
Comment avez-vous choisi votre question sur la nourriture ? À quoi voulez-vous faire réfléchir ?
Nous, on a pensé que si on ne mange plus, on meurt. Voulez-vous que nous réfléchissions à ce qui est important dans la vie ?
Alors le but, effectivement, c'est pas de faire des scénarios catastrophes où tout le monde mourrait, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer des histoires qui sont évidemment pas réelles, pour pouvoir réfléchir ensemble à la réalité et pourquoi on fait ce qu'on fait.
Est-ce que vous posez toutes ces questions pour réfléchir vous-même ou pour faire réfléchir ? Après votre exposition, on s'est posé beaucoup de questions. En voici quelques-unes. Pourquoi a-t-on créé la télévision ? Pourquoi les riches ne partagent pas leur argent avec les pauvres ? Que se passerait-il si tout était gratuit ?
Alors, pour répondre à la première question, effectivement, une des choses qui m'intéresse, c'est de réfléchir moi-même et de faire aussi réfléchir les autres. Et donc, je suis très heureuse que ça vous inspire beaucoup de questions, parce que c'est exactement le but de mon travail.
Si le ciel était comestible, quelle saveur aurait-il ?
Et moi, je
vous pose
la question. Si le ciel était comestible,
comment est-ce que
c'est
comestible ?
Oui, si on peut manger.
Super. Si on pouvait manger le ciel, il aurait quelle saveur ?
Une crème saveur qui fond dans la bouche et que c'est tout doux.
Doux, de goût. Une saveur douce. D'autres idées ? Si le ciel était comestible, quelle saveur aurait-il ?
La saveur d'un chamallow.
D'un chamallow ? Oui, papa. Juliette, elle imagine que c'est une petite fille qui s'appelle Lydie. Elle regarde le ciel aux différents moments de la journée et en fonction de la couleur du ciel, le ciel il a une saveur différente. Donc, quand Lydie, quand cette petite fille regarde le ciel, quand le ciel est brillant, il y a des orages très forts, elle imagine qu'il aurait le goût, par exemple, du pain perdu à la cannelle. Vous savez ce que c'est le pain perdu ?
Oui.
Mais est-ce que vous savez comment répondre à vos questions ?
Je ne sais pas toujours comment répondre à toutes les questions. Parfois, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Donc, je pose des questions aux gens autour de moi. Je leur demande quel est leur avis sur le problème. Et en général, c'est quelque chose de très collectif. On y réfléchit ensemble. Et après, ça me donne des idées pour mettre sur les œuvres.
Est-ce que vous avez des coéquipiers pour travailler avec vous, pour faire les questions ?
Non, je travaille toute seule la plupart du temps. Ça m'est arrivé une seule fois de faire un projet avec une de mes amies qui était sur les fontaines. Donc on a imaginé des fontaines qui n'existent pas. Et elle les a dessinées et moi j'ai écrit des petits textes absurdes dessus.
Est-ce que vous avez fait les questions en parlant de la nourriture ?
Alors, oui, je ne travaille pas uniquement sur la nourriture, là, c'était juste pour cette exposition, mais ça m'arrive de faire des œuvres sur d'autres sujets, comme par exemple la famille, le travail, l'école aussi, donc ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie de parler.
Vous avez fait plusieurs expositions ou que celle au Crédoc ?
Oui, j'ai fait plusieurs expositions, mais il y en a beaucoup dans lesquelles on est plusieurs artistes. Et là, c'est la première fois que je fais une exposition où il y a seulement mes œuvres.
Pourquoi posez-vous toutes ces questions ? Est-ce que vous avez peur que notre monde, il change ?
Alors, le monde est tout le temps en train de changer, donc je ne peux rien faire contre ça. Et je n'ai pas envie de faire changer ça, justement. Mais si je pose toutes ces questions, je pense que c'est parce qu'on se pose tous beaucoup de questions en permanence. Et donc le mettre dans une exposition, c'est une façon de partager cet état d'esprit, de s'interroger sur tout.
Combien de temps ça te prend de faire une œuvre ?
Alors ça dépend vraiment des œuvres. Il y en a qui peuvent être faites en quelques heures, d'autres où ça prend plusieurs mois. Donc ça dépend du temps de réflexion que la question nécessite. Mais généralement, le temps de réflexion est beaucoup plus grand que le temps de création. C'est-à-dire que le temps que je passe vraiment à dessiner, il est beaucoup plus réduit que le temps que je passe à cogiter avant de passer à l'action.
Des œuvres, vous en faites combien par jour ?
Ça dépend des périodes, parce que je passe beaucoup de temps à l'atelier effectivement à faire des œuvres, mais il y a d'autres aspects dans mon travail, comme aller sur les lieux où il y a les expositions, travailler avec les équipes, faire le montage, installer les œuvres, choisir où elles vont, les envoyer aussi aux personnes qui les collectionnent. Et puis rencontrer des gens, faire des rendez-vous. Donc il y a beaucoup de choses différentes dans ce métier. Et c'est pas seulement du temps qu'on passe à créer.
Quand vous êtes arrivé au Crédac, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez eu peur, être étonné? Est-ce que vous étiez ému d'exposer des œuvres que vous aimeriez montrer dans un musée?
Alors j'étais surtout très heureuse qu'on me fasse confiance pour faire une exposition dans ce lieu. Et comme le bâtiment est impressionnant, effectivement, avec ses très grandes baies vitrées, les briques, ça m'a plu de pouvoir avoir un environnement aussi beau pour montrer mon travail.
La première fois que vous êtes partie au Crédac, c'est le premier jour que vous avez fait les expositions.
On a travaillé pendant plusieurs mois sur l'exposition. Mais c'était pas seulement moi, il y avait toutes les personnes de l'équipe du Crédac qui m'aidaient à réfléchir, à choisir l'emplacement des œuvres, le bon matériel et les dimensions aussi. Donc c'est vraiment un travail de plusieurs personnes.
Est-ce que avant d'arriver dans un musée, vous faites vos œuvres ou vous les faites après ?
Alors là, toutes les œuvres qui sont au Crédac ont été faites spécialement pour ce lieu. Donc j'ai vraiment réfléchi en fonction de la pièce qui m'avait été attribuée. Donc il y a beaucoup d'artistes effectivement qui font les œuvres avant et qui ensuite choisissent l'exposition dans laquelle chaque œuvre va aller. Mais moi j'aime bien créer spécialement pour un lieu en particulier et l'avoir en tête quand je travaille.
Est-ce que vous avez déjà visité le musée avant de poser l'exposition ?
Oui, la première fois que je suis venue au Crédac, il y avait une exposition de Simon Boudevin que vous avez dû voir avec une voiture.
Quand vous avez commencé, vous avez quel âge ? Quand tu arrives au Crédac, tu avais quel âge ?
Alors, en ce moment, j'ai 27 ans et c'est aussi l'âge que j'avais quand j'ai commencé à travailler au Crédac. Mais l'âge que j'avais quand j'ai commencé à faire des dessins en noir et rouge qui racontent des histoires, c'était 15 ans. J'étais au collège à l'époque.
Est-ce que quand vous étiez au collège, vous avez déjà pensé à faire comme Simon Boudevin ?
Alors, je pense que mes parents ne m'auraient pas laissé démonter leur voiture, donc ce n'était pas une possibilité.
Est-ce que vous avez un mot à dire à ceux qui veulent vous recopier ?
Alors, j'avais entendu une fois un artiste qui disait que la meilleure chose qu'on pouvait faire contre les gens qui veulent nous recopier, c'était d'être plus inventif qu'eux et de faire un travail meilleur, parce que ça, ils ne pouvaient pas le faire. Donc voilà la réponse.
Quand vous êtes entré à l'école des arts, vous avez eu quel âge ?
Quand j'ai commencé à faire des études d'art, j'avais 21 ans. Et avant ça, j'ai fait des études de publicité. Parce que je ne voulais pas du tout être artiste à l'époque. Je ne pensais pas que c'était un vrai métier. Donc ça ne m'a pas traversé l'esprit.
Est-ce que quand vous étiez au collège, vous commencez toute seule ou vous faisiez avec des amis ?
Quand j'étais au collège et que je faisais mes petits dessins en noir et rouge pour prendre des notes de cours, j'étais toute seule. J'avais pas d'amis qui faisaient ça aussi.
Est-ce que quand vous étiez en CE1, est-ce que vous pensez à quoi faire quand vous serez grande ?
Donc, quand j'étais en CE1, je savais que j'aimais déjà dessiner, mais je pensais pas que c'était un vrai métier. Je croyais que c'était plus un rêve, et j'imaginais pas du tout qu'on pouvait vivre avec ces dessins. Donc, je me disais pas que plus tard, ce serait mon métier.
Quand vous étiez au collège, est-ce que vous étiez déjà puni ?
Alors, j'étais pas punie par l'école, mais j'étais punie par mes parents parfois.
Est-ce que vous avez aimé participer à cette exposition ?
Oui, j'ai beaucoup aimé, parce que l'équipe du Crédac est très accueillante et qu'elle a vraiment beaucoup respecté mes idées.
Quand vous y étiez petite, qu'est-ce qui vous a marqué pour faire beaucoup de dessins ? Est-ce qu'il y avait beaucoup de vos ancêtres qui aimaient faire ce genre de choses ? Ou alors, ça vous a passionné et vous aimez vraiment bien dessiner ?
Quand j'étais vraiment toute petite, je pensais que l'art, c'était seulement la peinture et que tout ce qui était écriture, c'était autre chose. Ça allait pas dans les expositions. Du coup, j'aurais pas du tout imaginé à l'époque que le travail que je fais maintenant pouvait avoir sa place dans le milieu de l'art. Je pensais que l'art, c'était seulement la Joconde et rien qui s'en écarte.
Est-ce qu'à l'école des arts, vous avez eu des amis ?
Oui, dans les écoles d'art, j'ai eu beaucoup d'amis, mais qui avaient un travail différent du mien, donc qui faisaient de la peinture, de la vidéo, de la photographie, de la sculpture, plein de choses différentes.
Est-ce qu'au club d'art, vous étiez la meilleure dessinatrice ?
Alors, c'est difficile de comparer qui est le meilleur ou le moins bon en art. Donc, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous apprend dans les écoles. On nous apprend pas à être meilleur que les autres, on nous apprend à vraiment avoir quelque chose de personnel dans notre travail. Quelque chose qui ressemble pas à ce que fait le voisin. Donc, c'est un peu. On en revient à la question de tout à l'heure sur le fait de copier les autres. La chose la plus importante en art, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui nous appartient et qu'on n'a pas été chercher chez d'autres personnes.
Est-ce qu'il y a différentes écoles d'art pour différents types d'art ?
Oui, il y a des écoles qui sont focalisées sur une seule pratique. Donc il y a des écoles pour les gens qui veulent faire seulement du dessin, seulement de la photographie, seulement de la vidéo. Mais celle dans laquelle moi j'étais, c'était plusieurs disciplines. Donc c'est pour ça que j'avais beaucoup d'amis qui faisaient des choses différentes de celles que moi je fais.
Est-ce que quand vous étiez petite, vous faisiez un sport ?
Alors le dessin, c'est un peu sportif parfois, surtout quand je dessine sur de très très grandes surfaces. Et je travaille beaucoup sur le sol aussi, donc je mets les feuilles par terre et je me mets à genoux dessus. Donc oui, parfois c'est physique, ça fait des crampes.
Quand vous étiez petite et quand vous avez grandi, aimez-vous manger ? Je sais que tout le monde aime manger, mais vous, comment dire ? Eh ben, vous aimez vraiment manger. Parce que on a vu au Crédac que vous avez posé, que dans une autre salle, vous avez posé des questions sur la nourriture. Par exemple, le ciel, ça aurait quel goût ? Si on ne mangeait plus, toutes ces questions, j'ai réfléchi et j'ai pensé que si. Que vous y aimez bien manger. Est-ce que vous aimez bien manger ?
Oui, j'aime beaucoup manger, mais ce qui m'intéressait dans le fait de travailler sur la nourriture, c'est que, comme vous disiez, tout le monde a un rapport avec la nourriture. Et du coup, je pensais que c'était un bon sujet pour que chacun s'y retrouve, quoi, que ça concerne tout le monde. Et que du coup, l'exposition crée plus de liens affectifs avec les gens qui visitent.
Quand vous étiez petite, est-ce que quand votre mère faisait de la nourriture, vous savez c'était quoi ?
En général, oui, mais parfois, il y avait quelques surprises, effectivement. D'autant plus que, comme mon papa est américain, on avait souvent des plats qui n'existent pas en France, parce que c'est ma grand-mère qui les envoyait d'Amérique. Et parfois, on faisait goûter ça aux amis français qui étaient très surpris parce qu'ils n'avaient jamais essayé. Alors, si vous voulez, avant de terminer, on va faire un tour de table où chacun dira son plat préféré.
Moi, mon plat préféré, c'est la pizza. Oh.
Moi, mon plat préféré, c'est un tacos.
Mon plat préféré, c'est un tacos aussi.
Mon plat préféré, c'est la purée. Moi, mon plat préféré, c'est les mini tacos.
Moi, mon plat préféré, c'est les pâtes.
Moi, c'est les hot dogs.
Moi, c'est deux sortes de plats, alors les spaghettis et les légumes.
Moi, mon plat préféré, c'est les pâtes à la sauce tomate.
Moi, c'est les petits pois. Moi, c'est les petits pois et les spaghettis.
Les pâtes aux crevettes et
les nachos avec la sauce.
Moi, les nouilles chinoises.
Moi, les spaghettis bolognaise et les lasagnes.
Moi, c'est des pâtes à la carbonara avec des frites et du poulet.
Moi, de la lasagne, de la purée et des spaghettis.
Moi, de la pizza.
Pâtes au lardon.
Des frites avec du steak.
La pizza et un Big Mac.
Moi, c'est des pancakes avec des pâtes avec du piment.
Moi, c'est les calamars.
Le couscous.
Moi, j'aime beaucoup la pâte d'amande.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
Au revoir.
Notre émission est terminée. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.
Au revoir. Au revoir.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
You know what's
Antoine Vitesse.
Nous sommes les CM2A de l'école Langevin. Cette année, nous sommes les petits correspondants du théâtre. Mardi 11 octobre, nous sommes allés voir un spectacle au théâtre Antoine Vitesse. Il s'intitule « Le carnaval des animaux sud-américains ».
C'est l'histoire d'un adulte qui retrouve son don d'enfance lors d'une balade au zoo. Communiquer avec les animaux. Un condor vient le chercher et lui dit « Invite les animaux sud-américains à un carnaval pour rétablir la paix entre les animaux et les hommes. »
L'homme part alors en Amérique du Sud pour écouter les histoires de plusieurs animaux.
L'artiste Eliot Génico, comédien.
Il mimait les animaux.
Si tu savais, moi j'ai pas le temps de tout raconter. J'ai beaucoup de travail, moi. J'ai tout porté, rapporté, supporté. Riche, ouvrier, prêtre, lui, les trois trésors, le café, le sucre, l'or. Oh, déjà mes ancêtres au Mexique ont porté les conquistadors. Ces chevaliers qui ont conquis mon pays. Oh, je n'ai pas le temps de tout raconter. Mais je te raconte.
Nous allons vous présenter les animaux sud-américains.
Condor, c'est un oiseau majestueux considéré comme un dieu par les Incas et les Mayas. C'est lui qui demande au jeune homme d'écouter les histoires de chaque animal d'Amérique du Sud.
Mon bec est si pointu que je pourrais écrire mon nom sur le soleil. Mais je suis seulement venu te chercher, ne crains rien.
Le lama. Elle était agacée, prête à cracher.
Elle a une apparence snob.
Oh ! Je sens que je vais cracher, là. Quand je vais tâcher, que je vais lâcher. Quoi ? Pourquoi j'ai la rage ? Mais parce qu'on m'achète pour pas cher. Je suis une monnaie, ici.
L'or, drôle d'animal, ça n'en est pas un. L'or s'offrait car les conquistadors sont venus chez les Incas et ils en avaient beaucoup. L'or a été pourchassé, maltraité, convoité.
Le jaguar parlait en rime. Narcissisme.
Il est avec les riches.
Son costume était un costard avec des lunettes noires.
L'or, j'adore. Je kiffe aussi les habits de fourrure. Celle des autres, oui. Bien sûr. Et le peuple. Et les gens. Que voulez-vous savoir, vraiment? S'ils ont faim, mais qu'ils mangent. Les pleurs, les râles, ça me dérange. Ça n'est pas digne des beaux esprits, mais ça ne me coupe pas l'appétit.
Finalement, il n'ira pas au carnaval.
Le capybara, il a des petites lunettes, il oublie tout, même la chanson de son enfance.
Moi qui suis rongeur, tu sais, je comprends que la vérité aussi se ronge. Elle se ronge tellement qu'elle disparaît. À moi, capybara, je veux juste ça, la mémoire.
Le tatou. Lui aussi parlait en rime.
Tout rimait avec son prénom. Le tatou dit tout sur maman tatou, t'as tout compris?
J'ai tout dit. T'as tout eu, t'as tout entendu. Et chante ça partout en tête ou à ton tour. Tatou veut dire amour.
Le dauphin rose, il se fait pourchasser. Des braconniers en veulent à sa chair. Il adore danser et sa légende est qu'il se transforme en jeune garçon pour aller danser avec les filles.
Moi, quand un homme tombe à l'eau, je le sauve toujours et ça me fait plonger de colère. Et d'injustice. Je vais te dire un secret. Tu sais ma légende? Eh bien, elle est vraie.
Le nondu, c'est un oiseau qui ne peut pas voler. Il court, il ne s'arrête jamais de courir. Il ne sait même pas pourquoi il court. C'est une autruche.
Très dangereux, je le répète, et partout dans le policier, partout dans le policier, ça se bête, dictateur, menteur, je le répète, pas, dictateur, menteur, tu es en bas, je le répète, partout dans le policier, partout dans le policier, je le répète, c'est dangereux, dictateur, menteur, tu es en bas, dictateur, menteur, tu es en
bas. Les perroquets, c'était des victimes de leur beauté. Pour se libérer, les oiseaux ont cassé les oreilles des humains qui ont fini par ouvrir la cage.
Ces personnes étaient riches et ont décidé d'acheter des humains qu'ils ont mis dans des prisons. Les oiseaux ont aidé les humains en se chantant « Liberté !
Liberta !
Liberté !
Liberta !
Liberté !
Liberta ! »
Le cygne noir, il ressemblait à un point d'interrogation sur les temps, donc il se posait plein de questions.
Qui suis-je ? C'est quoi mon ami ? Pourquoi je danse en sachant tout ça? Est-ce que je peux dire ce que je pense aux gens d'en bas, à mon pays? Est-ce que je peux ajouter que de toute façon, je vais quand même faire la fête, et que la vie est courte comme une bougie, et que sans musique, le ciel tomberait? Parce que le carnaval est là, alors on peut tout se dire. Et si des gens où le président ou vos sourires ne sont pas contents, tant pis, tant pis. J'ai compris que mes ailes me font voler quand je réfléchis, pas quand j'ai peur et je me lamente.
Sur scène, à part l'acteur, il y avait deux femmes et deux hommes.
La dame, elle faisait de la flûte traversière, la flûte de Pan, et parfois elle faisait des instruments un peu étranges. Il y avait aussi un pianiste, une dame qui faisait du violoncelle, et quelqu'un qui faisait des instruments à percussion.
À chaque fois que l'acteur il faisait un animal, bah, eux, c'est de montrer, par exemple, leurs émotions envers l'animal, la peur, la tristesse, la joie, tout ça. Ils ont joué la musique, du coup c'est ça qui a fait pour avoir du rythme. Et c'est ça qui a fait qu'on a rigolé, tout ça, voilà, c'était bien.
La scène que j'ai aimée, c'est l'autruche quand elle courait parce que c'était vraiment très drôle. Et la scène que j'ai pas aimée, c'est le tatou parce que j'ai pas très compris le rime. La scène du tatou, c'est celle que j'ai le plus aimée parce que j'ai trouvé ça drôle. Et j'ai beaucoup aimé l'instrument que la mère tatou a utilisé. Et en plus, comme tout rimait avec le nom tatou, j'ai trouvé ça bien. Comme il faisait tous les rôles, l'acteur, parfois on ne savait pas s'il était retransformé en son personnage principal qui n'est pas beaucoup là, ou alors en animaux, et parfois il passait directement d'un animal à un autre et on ne comprenait pas. Par exemple, j'ai cru que le cygne noir, c'était l'autruche, alors que c'était deux animaux différents. La scène du lama, c'est tout de suite, mais cette fois-ci, là, on voit qu'il retourne une des décorations. Et là, on voit un lama et on comprend. Et lui, il commence à dire, les lamas, il paraît que ça crache. Et là, bah, moi, je comprends que là, ça va commencer. Le lama, il va aller. Alors que, par exemple, les oiseaux et le perroquet avant les oiseaux, j'ai pas compris que c'était le perroquet. Et après, il y avait les oiseaux. Il a tout de suite parlé des oiseaux.
J'ai beaucoup aimé la scène quand les rubans tombent sur scène parce que c'était assez impressionnant. Quand la musique elle a commencé à être un peu plus fort, et ben les rideaux ils sont tombés. C'était des oiseaux, des toucans et plein d'autres qui étaient emprisonnés derrière des barreaux et ils essayaient de sortir mais ils pouvaient pas.
Ils parlaient plutôt
qu'ils avaient été enfermés pendant très longtemps dans des cages et qu'après un moment, ils avaient crié très très fort pour pouvoir se libérer. Et ensuite, ils les ont libérés, mais ils ont mis des humains à l'intérieur, mais c'était pour représenter les prisons.
Moi, en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est le jaguar. Vu que moi, je trouvais ça gênant qu'il se met à quatre pattes devant beaucoup de spectateurs. Comme ça, en faisant comme ça, moi, je trouve que c'est pas très normal. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé. C'est un peu gênant. L'acteur, c'était bizarre ce qu'il faisait.
Il léchait sa main.
Il léchait sa main, mais pas vraiment. Il léchait pas vraiment sa main. Il faisait semblant. Moi, je pourrais jamais faire ça sur un plateau comme ça si j'étais à sa place.
Personnellement, j'ai déjà fait des pièces de théâtre devant beaucoup de gens. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on en fait son métier, lui, il avait l'air d'avoir une grande expérience. Et je pense que la première fois qu'il a fait un spectacle, et même les premiers spectacles, le début de sa carrière, il a déjà été gêné. Mais comme là, on voit il a eu plein de spectacles, je pense que c'est ses gestes, et je pense qu'il fait aussi d'autres spectacles humoristiques avec des gestes ridicules. Du coup, il s'est habitué à être devant beaucoup de gens. Et je pense que c'est des gens, les comédiens, ils peuvent parler devant beaucoup de monde, et être timide, c'est pas très bien quand t'es comédien.
Quand l'acteur, il est venu devant une femme qui faisait le violoncelle, oui, il a fait ça et elle a tourné sa tête. Moi, j'ai pas trop compris ça.
Il jouait le rôle du guépard, du jaguar, je veux dire. Du coup, c'était un animal terrifiant et qui devait terrifier les gens. Et pour montrer bien, vraiment, il lui faisait peur. Et elle détournait la tête pour montrer qu'elle avait peur.
J'ai particulièrement aimé une scène, celle sur le jaguar, parce que j'ai bien aimé quand il commençait à parler en rime, parler des riches. J'ai trouvé ça assez drôle, mais je n'ai pas aussi aimé la scène du jaguar parce que je trouvais qu'il allait un peu loin dans le narcissisme.
Trouvez ça gênant lorsqu'un acteur ou une actrice joue quelque chose de ridicule sur scène?
Non! Dans des films, dans des spectacles, les acteurs et les actrices peuvent faire des choses bizarres. Par exemple, dans ce spectacle, c'est pour bien représenter les animaux.
L'acteur cherche à faire rire en jouant de cette manière.
S'il savait que ça nous met mal à l'aise, l'acteur serait peut-être triste.
Mais nous, par exemple, est-ce qu'on serait capable de faire du théâtre?
Dans notre classe, environ la moitié des élèves auraient envie d'essayer d'imiter des animaux devant les autres.
Nous sommes différents. Certains sont à l'aise, d'autres non. Le théâtre, c'est un bon exercice. On gagne de la confiance en soi quand on apprend à jouer sur scène.
Et même sans faire du théâtre, chacun peut travailler pour savoir dépasser ses peurs et oser s'exprimer en public.
Comme à la radio?
Exactement, Lucien.
Voilà, Radio Cartable, c'est fini pour aujourd'hui.
Au revoir!
Radio Cartable. École d'Ivry.